Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+. Chaque deuxième et troisième jeudi du mois à 13h10 et 19h10. Je reçois aujourd'hui dans Jardin d'Isis Renaud Baillet, poète, comédien, dont les implications dans le monde poétique et les arts vivants s'étendent bien au-delà de la poésie. Bonjour Renaud.
Bonjour Marie-Agnès.
Un extrait de sa poésie. Argonaute, en quête de plus pure merveille, guidé dans les tréfonds des gorges amérindiennes par des lampades aux hanches serpentines, je découvrais bientôt les aurores australes sous-jacentes à la réalité. Je souhaiterais te poser une question sur l'influence qu'a représenté la vie en Colombie pour toi, parce que puisque tu as séjourné quelques années en Colombie.
Alors 3 ans et demi en Colombie et un peu plus de 5 ans en Amérique du Sud. Que ce soit la Colombie ou l'Argentine ou même tout ce voyage que j'ai entrepris pendant presque 1 an pour parcourir ce continent latino-américain. Ça a forcément influencé mon écriture puisque j'ai commencé à écrire là-bas. Avant, je n'écrivais pas.
Oui. Et tu as été influencé au niveau des thématiques, déjà. Les thématiques qui se sont imposées à toi au travers des images, le désert et certainement la culture.
Le voyage avant tout.
Oui, le voyage.
On s'est rencontré à la Maison de la Poésie par le biais de Physionomie des Ombres,
voilà,
ce recueil qui est justement un recueil sur le voyage, à la fois physique et initiatique.
Très bien, oui, c'est ce que j'ai ressenti. Tu as été retenu par le comité de lecture et connu à la Maison de la Poésie par l'intermédiaire de ce texte. Est-ce que tu veux nous lire quelques-uns de ces poèmes? Mais tu me parlais d'un voyage, intérieur, un voyage initiatique, oui. Et tu as rencontré des lieux alternatifs, cela a influencé aussi ta conception peut-être du partage de la poésie.
Oui, complètement. Pour ce qui est du voyage initiatique, alors peut-être revenir avant,
oui.
sur le désert dont tu parlais.
Oui, le désert.
Le désert, c'est vraiment le poème pour le désert et Requiem Memoria qui est sur la mer. Ce sont les deux poèmes vraiment qui permettent de comprendre le recueil.
Oui.
C'est un voyage physique, mais tout voyage initiatique est d'abord un voyage physique. C'est-à-dire le désert, la traversée du désert, c'est le moment où on se défait de tout.
Oui, je pense que c'est ressenti par beaucoup d'auteurs de cette façon.
Et dans beaucoup de cultures chamaniques, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud.
Oui.
Avant d'aller à la méditation, prendre la médecine en Amérique du Sud, puisqu'on parle de l'ayahuasca, du peyote ou du San Pedro, il y a ce parcours physique qu'il faut faire pour arriver jusque là-bas.
Oui.
Et donc le désert, c'est ça, c'est cette traversée où il n'y a plus rien. Et on a besoin d'avoir ce plus rien pour accepter ce qui va venir.
Oui, c'est un genre de dépouillement, on se dépouille
de
cette écorce d'apparence qui nous construit.
Et pour ce qui est du partage, effectivement, ce sont des pays où il y a un partage permanent. Partout, pas seulement dans des lieux alternatifs, dans la rue. On rencontre toutes sortes de personnes dans les rues, de toutes classes sociales. Et il y a une immédiateté dans le partage.
Oui.
Une envie de rencontre, que ce soit juste dans les mots, dans la discussion, mais même dans, très, très simplement, des gens viennent à toi et te disent des poèmes, chose qu'on ne voit quasiment jamais en France, sauf par l'intervention de collectifs qui souhaitent justement sensibiliser les gens à la poésie. Mais par rapport à la musique, les gens spontanément se mettent à chanter, à danser, à jouer.
Plus un sens de la fête et de la spontanéité aussi. Tu disais que tu lisais des poèmes dans la rue, donc...
J'ai commencé en lisant des poèmes dans la rue, bien avant de publier, bien avant de faire des récitals. D'une part pour sensibiliser les gens du coup à la poésie, ce n'était pas mes poèmes à l'origine puisque je n'écrivais pas encore. Mm-hmm. Et je le crois justement, c'est à force de traduire certainement assez mal à l'époque, mais traduire des poètes français pour les donner à connaître au public latino-américain, que ça m'a donné envie d'écrire au final.
Tu penses que la rue, c'est un lieu d'expérimentation permanente? C'est la relation à l'autre,
Ça peut être d'expérimentation, c'est un lieu de rencontre.
C'est un lieu de rencontre,
rencontre,
oui. Et qu'il faut... qu'il faut utiliser, qu'il faut appréhender pour pouvoir aller vers l'autre. On va écouter ces deux poèmes, Errance et Requiem Memoria.
De ce ciel, je ne suis pas. Une autre argile m'a mise au monde. Un autre dieu porte à mon nom. Pourtant, je reconnais la voix de cette roche, celle de ce ruisseau, bien que tous deux s'exprimant dans un alphabet insaisissable pour mon ouïe. Guidé par ces murmures incessants que le vent ressuscite à son passage, afin d'en démêler un secret depuis trop longtemps scellé, je poursuis ce chemin qui ne semble mener vers aucune source. Marche, disent-ils la voix imprégnée d'une ineffable euphorie. Marche, car le chemin n'existe que par l'empreinte de tes pas. Marche, car le paysage n'existe que par la présence que lui offre ton regard. Pour moi seul, dans ces nuages de sable, comme si les éléments animaient une fois encore l'esprit qui autrefois avait habité ces restes poussiéreux, et me laissait entrevoir les rites et les chants de ces êtres invisibles que le Verbe oublia. Et il n'eut plus ni lendemain ni hier. Et le soleil cessa d'être jour, et la lune cessa d'être nuit. Les heures devinrent anonymes, le temps, ellipse de mémoire, l'espace, spasme de vie. Mon corps, inerte, inexistant. Mon âme, voguant et divagant dans l'infini océan de la solitude, menait ma pensée tel un navire en naufrage. Ainsi libéré de moi-même, j'erré dans un néant, sans fond, sans raison, sans horizon. Je parcourus les milles comme une seule, sans plus de souvenirs, avec cette horrible impression de toujours revenir au même endroit, qui n'existe pas, qui n'existe plus, et déjà autre, et pourtant tellement semblable. Les astres s'évanouirent, et seules les phosphorescences planctoniques illuminèrent ma mer d'exil, nébuleuse, aquatique, tourbillonnante en une danse frénétique. Abandonné à l'ombre du cancer, je fus bohème et misère et insouciance. Pas de requiem pour les exilés de la société.
On va écouter un petit morceau de musique. Est-ce que tu veux nous présenter ce groupe que nous allons écouter?
Alors, c'est plus qu'un groupe, c'est Silvio Rodríguez.
Oui.
C'est un parolier cubain, la Nova Trova,
oui,
Cubana. C'est un artiste que j'aime beaucoup. C'est un des rares qui arrive à associer une création musicale que je trouve magnifique, mais aussi un engagement politique, mais très poétique.
Très bien.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Alors, le titre du morceau s'appelle
La Massa.
Et ça évoque le contenu du texte sur la chanson, sur la mélodie, l'engagement ça, du poète.
Ça évoque l'engagement artistique dans la création.
Dans la création.
Parce que toute la chanson dit, voilà, si je ne croyais pas en la folie, si je ne croyais pas en la raison de l'équilibre.
Oui.
C'est-à-dire, s'il n'y avait... Tout ce que je chantais et tout ce que je composais n'était pas... rempli de ce en quoi je croyais, ça ne serait juste une chanson quelconque.
Oui, il y aurait vide de sens.
Vide de sens.
Bon, maintenant, Renaud, est-ce que tu peux nous parler de cette Biba, ou bibliothèque bavarde ? De quoi s'agit-il ?
Alors, la bibliothèque bavarde, ou la Biba pour les intimes, il s'agit d'un projet qu'on a créé il y a un an, je dis « on » parce que je ne suis pas tout seul dessus. D'une part, ce sont des lectures publiques. D'une part, a pour objectif de donner à connaître un vaste horizon de textes au public de Montpellier. On va passer par la dramaturgie, par des extraits de romans. Ce mois-ci, par exemple, on est sur la poésie, notamment en partenariat avec le Printemps des Poètes. Et d'autre part, c'est un prétexte de travail de rencontre pour les comédiens, auteurs, metteurs en scène et musiciens de la ville et de la région essentiellement.
Oui, tu disais que c'est un excellent exercice de rencontre entre des comédiens qui n'auraient pas forcément travaillé ensemble, mais qui se trouvent regroupés sur cette scène.
Tout à fait, oui, parce qu'on a l'habitude de se rencontrer à des spectacles, parfois lors de stages, autour d'un verre, très souvent. Oui. Mais c'est un milieu où, pour qu'on travaille ensemble, il faut déjà qu'on travaille ensemble.
Oui.
Pour se connaître, un metteur en scène va rarement proposer à un comédien qu'il ne connaît absolument pas, ou bien il va faire un casting, une audition... Mais sinon, on ne va pas s'engager sur un gros projet si on ne connaît pas déjà la personnalité du comédien, sa capacité à travailler avec les autres. Donc là, c'est au sein de lecture publique et d'un travail en amont, qui va être garant de la qualité de la lecture. Mais dans ce travail à la table, autour d'un texte, avec quelqu'un qui va diriger la lecture, qui peut être ou bien l'auteur ou bien un directeur de lecture, un directeur d'acteur... Là va s'exercer la rencontre. Des personnalités vont se rencontrer, des envies de théâtre, des envies de texte.
D'accord. Et ça se déroule au Café Le Dôme, trois lundis par mois à 19h30.
Alors ça dépend, on va faire 3 à 5 lundis par mois.
3 à 5 lundis par mois. Donc vous allez couvrir tous les lundis pratiquement.
Bah pratiquement, on essaye autant que possible.
Oui. Et alors cette scène est dépouillée, mais c'est aussi une façon d'inciter l'auditeur à avoir recours à l'imaginaire, à imaginer les décors, les mises en scène qui auraient pu accompagner les textes.
C'est un travail c'est un exercice même qui est assez particulier, qui est très formateur pour les comédiens encore en école, ou même pour des comédiens confirmés, puisqu'il s'agit à donner à imaginer tout ce qu'il y aurait autour de ce texte, c'est-à-dire les décors, éventuellement les lumières, les maquillages,
costumes,
les costumes, et même les gestes, vraiment à des lectures au pupitre, c'est très rare qu'on les mette en mouvement. C'est de réussir à imaginer tout ça, la situation, l'ambiance d'un texte, juste à travers la voix.
D'accord. Et en fait, cette passion pour le théâtre, tu l'as depuis très très jeune. Tu me disais que ça... Tu as d'abord eu la passion pour le théâtre avant l'envie d'écrire de la poésie, qui est quelque chose de plus récent.
Oui, la poésie, c'est très récent, ça fait 4-5 ans. Le théâtre, je ne m'en souviens quasiment pas, mais je crois que déjà à 5 ans, j'étais sur scène.
D'accord, et oui, donc d'où cette aisance que tu as acquise au fil des années, certainement. Et tu me dis que cette démarche s'inscrit aussi en continuité dans ce qui avait été entrepris en Colombie. Déjà, il y avait déjà des scènes de théâtre, des...
Alors, ce n'était pas vraiment des scènes de théâtre. On avait monté un projet qui s'appelait l'Aldea Encantada en Colombie, qui était un centre culturel alternatif qu'on avait créé dans une grande cabane en bois, perdue au milieu de la forêt. On organisait des événements assez particuliers, très proche de ce qui se passe en Argentine, c'est-à-dire on invitait les gens à quitter la ville, à venir dans ce bois, dans cette cabane, à partir de minuit jusqu'à 6h du matin,
d'accord,
pour écouter de la poésie et de la musique.
Oui.
Et donc, c'était une autre manière de les sensibiliser dans un autre espace-temps, vraiment,
oui, oui,
de les
c'est
sortir.
Une expérience extraordinaire. Ouais. Alors, on va écouter d'autres poèmes, je pense que... va nous lire.
La terre, c'est le cœur qui la travaille. Le poème des mains qui se confient à elle, caressant sa surface, pénétrant son intimité. Et la tendresse d'un regard qui devine déjà dans le cri muet des premiers bourgeons, la fleur et le fruit. La couronne et la confiture, les baisers que l'on échange sous l'ombrelle d'un oranger. Les rires du feu qui se partagent avec les larmes rouges de la veillée. Lorsque nous aurons la force des géants, un cœur de tambour battant sous l'épiderme, lorsque le tronc de nos forêts ne ploiera plus l'échine dans la bourrasque des discours et seul restera la quintessence, notre orgueilleuse ivresse d'aimer, alors des larmes fauves, irisées d'or et de diamants jailliront de nos fontaines. Au sortir de nos corps, des navires dressant leurs mâtures, toutes voiles gonflées comme des sexes antriques, iront brûler de leur fougue les océans. Et le pavillon des Thébaïdes, ce jupon de dentelle traîné dans la fange et la quincaille des dieux de pacotille, fleurira à nouveau la bouche désalisée. Des mains noueuses tisseront de leurs racines les étendues souterraines des hommes, et relateront le secret de nos nuits d'insomnie, le combat que nous avons mené sans relâche, avec l'insolence de nos utopies, la déraison d'y croire toujours. Nous serons présents au théâtre du monde. Notre voix s'émerveillera des mots justes, du geste offert sans fard ni maquillage, de cette lumière qui se posera sur nos lèvres, douce et un peu naïve comme une caresse. Et nous étions soudainement plus de 100, plus de 1000 enfants du sacre des nuits. Nous étions un seul et même corps au versant des collines, un seul être, parlant toutes les langues et n'en comprenant aucune, sinon celle du désir. Tous si différents, et pourtant mus par la même fièvre d'aimer, aimer éperdument, et mourir, les yeux blessés de trop de lumière.
Thank you.
Donc Renaud, tu peux nous parler des projets sur lesquels tu travailles actuellement ?
Alors actuellement, je suis sur l'écriture d'une pièce, Les Oréades.
Mm-hmm.
Donc passer de la poésie au théâtre, ça me paraissait important.
Oui.
Une pièce qu'on va commencer à travailler et à monter courant de l'année, mais qui verra certainement le jour ou bien fin de l'année ou bien même pour 2020, puisque c'est un très gros projet.
Mm-hmm.
Il y a un autre projet du côté de la poésie. C'est ce que j'appelle un voyage poétique et sonore en travaillant avec plusieurs musiciens.
Oui.
Ce n'est pas un concert, ce n'est pas un récital, c'est un voyage poétique et sonore.
D'accord.
Et qui ira avec une installation poétique dont je ne peux pas trop en parler
d'accord,
pour l'instant.
D'accord, d'accord. Je sais que tu as beaucoup de talent pour les bruitages aussi. Alors actuellement, tu as un livre en cours de traduction en espagnol, qui est même avec la collaboration d'une traductrice qui est même terminée, je crois.
Il est déjà terminé.
Oui.
C'est avec Valentina Macias Izaza, une traductrice colombienne. Ça s'appelle Les Chemins Invisibles.
D'accord.
Et on continue, il y a toujours plusieurs recueils qui sont en cours, et on continue à les traduire au fur et à mesure avec cette traductrice-là.
D'accord. Et tu me parlais d'une maison d'édition que tu as créée, dans laquelle tes recueils sont publiés. Tu publies...
Alors j'ai créé les éditions Omni Solaris.
Oui.
Qui sont des éditions alternatives et artisanales.
D'accord.
Entièrement faites à la main. Je les ai créées dans deux idées. Bon, d'une part, parce que c'est très compliqué quand on est jeune poète, et parfois même moins jeune, qu'on n'est pas connu, à trouver une maison d'édition qui se risque à nous publier. Mm-hmm. Mais aussi parce que je voulais être dans l'ensemble du processus, c'est-à-dire pouvoir choisir le papier, pouvoir choisir la typographie, la mise en page. Ça me paraît très important dans toute création artistique d'avoir tant le fond qui va être le sens que la forme.
Oui, c'est vrai que ça, enfin, c'est plus un livre d'artiste selon l'envie que tu avais de le concevoir. On va écouter quelques poèmes.
Il nous faudra réapprendre avec le silence de la chair, avec la quiétude de l'esprit. Tout renommé par des mots simples qui regorgent d'absolu, de liberté. Arbre, fruit, ruisseau, enfant, ciel, montagne, nuage, étoile, femme, océan, orage, clarté, fleur, vent, abeille, terre. Terre. Murmure des songes de la terre, écho du chaos des vagues et ce chant de couleurs qui irradie toute chose, pour raviver la flamme qui palpite dans la conque de chacun de ces mots, en matérialiser le sens, lui donner une fois encore le pouvoir d'exister, de résister, s'éterniser. Et même si ce n'est que par la présence de mon regard, ici, du moins, un instant, grâce à chaque particule qui compose ce corps, grâce à cette langue qui parfois balbutie d'un trop grand besoin d'aimer, alors ils conserveront leur vérité, leur justesse, leur beauté. Garde l'homme, je t'attendrai. Sous la grande horloge de cristal, un brin de muguet en boutonnière. Sur le quai, je serai là, nu comme au premier jour, afin que nos retrouvailles soient une renaissance. La locomotive entrera avec son cortège d'années, sa robe de fer couverte de suie, d'oripeaux, de feu. Peu à peu s'estompera le cri des châssis, la folie ardente de sa bouche, un dernier râle de fumée. La course de la machine arrêtée, la grande horloge tintera doucement l'exactitude de la présence. Garde l'homme, nous serons 100, 1000, ou peut-être serai-je seul à t'attendre sur le quai, un rayon de mai en boutonnière, pour te nommer un sourire candide. Et peu importe si personne d'autre ne vient, j'emmènerai villages, villes et ports, toutes les pierres, tous les noms dans mon baluchon de lin. Des larmes comme un envol de cigales baigneront les champs de lavande, les toits, la somnolence des vitraux, et puis aussi le banc au pied duquel, muselé, couche la tente. sous la grande horloge de cristal, mes yeux ridés d'avoir tant guetté ces massifs rocheux d'abruptes étreintes, ces nuages aux visages effarés. La cantilène sèche du vent, le sel des heures, auront déposé leurs traces, un baiser de veille sur mes paupières. Garde l'homme, ton soulier fleuri effacera le piétinement des heures, l'obsession des ombres sur le cadran et la mélancolie d'un vieil orme courbé sur la distance. Nous serons de nouveau nus comme au premier jour, unis comme à la première nuit. Ces chats indiscrets sur le rebord de la fenêtre et la toile argentée que la lune tissera sur nos lèvres. Et dans tes bras, homme, je t'aimerai, liberté.
Maintenant, Renaud, je voulais que tu développes un petit peu cet engagement qui est le tien, parce que c'est quelque chose de très important dans toutes tes activités, qui se ressent également, que ce soit quand tu édites ou quand tu proposes ces spectacles au niveau de la bibliothèque bavarde. Tu penses que le poète a un devoir d'engagement.
On a un devoir de sensibilisation, de témoignage et de prise de conscience, je pense.
Oui.
On n'est pas des philosophes, mais malgré tout, on a un gros pouvoir sur notre société.
Oui.
Et c'est important d'être là et d'avoir conscience de qu'est-ce qu'on défend artistiquement et au niveau des pensées qu'on défend.
Au niveau des valeurs, au niveau de ce auquel on croit. Et le poète, parce qu'il est directement en contact avec l'auditeur, avec celui qui lit les textes ou qui les écoute.
Le poète, le metteur en scène,
le comédien.
Dans le cadre de la poésie, c'est vrai que je rejoins très beaucoup Léo Ferré.
Parce que
la poésie est faite pour être dite et entendue.
Oui.
Et que c'est là où elle prend tout son sens. C'est, quand je dis qu'on a un engagement, c'est malgré tout, on est dans une société, je crois, ici en Europe, en France, où il y a un gros péril, et notamment pour la poésie, mais même le théâtre, les gens perdent cette sensibilité, cette envie d'aller, parce qu'on est omnibulé par des écrans, parce qu'on est dans une société qui manque cruellement de poésie.
Mm-hmm.
Et que même si on souhaite tous vivre de notre art, on doit même bénévolement aller à l'encontre des autres pour qu'ils continuent à avoir un public. Il faut qu'ils soient sensibilisés à ça.
Oui.
Et quand je vois le travail qui est fait, le non-travail qui est fait dans les écoles par rapport à cette sensibilisation de partout, si nous on ne le fait pas, si on ne revendique pas cette sensibilisation-là des gens, au bout d'un moment il n'y aura plus de public, donc on n'arrivera plus à en vivre.
Oui.
Et il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est pas nous qui vivons de l'art, c'est l'art qui vit grâce à nous.
Bon, Renaud, maintenant pour l'auditeur, c'est important de savoir où est-ce qu'il peut trouver tes écrits sur un site, si tu as un site, et également que tu puisses nous parler de cette programmation d'avril à la Bibliothèque Bavarde, au Café Le Dôme.
Alors, pour ce qui est de mes écrits, il y a une page Wix. Je ne vais pas vous donner l'adresse, mais sinon, juste dans Google, vous mettez Renaud Baillet, B-A-I-2-L-E-T, et Poésie, vous la trouvez immédiatement. Pour ce qui est des recueils chez Omni Solaris, il faut passer directement par moi. Donc, vous avez mon mail, oui, mon numéro de téléphone, et ils ne sont pas en librairie. Maintenant, pour ce qui est de la Bibliothèque Bavarde, pareil, je vous invite juste à mettre dans Google Bibliothèque Bavarde Montpellier, vous avez toute la programmation. Et pour ce qui est du mois d'avril, on sera sous le titre de Voix hallucinées, donc autour de la folie.
Oui.
On aura des textes de William Burroughs, de Nijinsky, de Marilyn Monroe, une intervention du collectif anti-validiste, un texte de Magali Mougel qui s'appelle Suzy Stork, publié aux éditions 34, donc des éditions locales, des contrées du rêve de Lovecraft et plusieurs textes autour de la folie meurtrière d'Othello.
Ça va être l'occasion de belles découvertes.
Oui, tout à fait.
Alors à bientôt à la Bibliothèque Bavarde pour écouter Renaud Baillet.